Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission des Échos de l'innovation. Donc, comme d'habitude, toute l'équipe est là autour de la table. Et le thème cette semaine, c'est les femmes dans la tech. On va attaquer tout de suite avec les actualités de la semaine que je vais vous présenter. Donc, la première actu de cette semaine, elle concerne la centrale nucléaire de Fukushima, où les chercheurs ne savent plus quoi faire des eaux contaminées. Donc pour rappel, Fukushima avait été ravagé par un tsunami en mars 2011, qui a provoqué le pire accident nucléaire après celui de Tchernobyl en URSS en 1986. Et la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'eau désormais radioactive qui a été contaminée en refroidissant les réacteurs. Donc aujourd'hui, cette eau est stockée sur le site nucléaire, mais d'ici 2022, les citernes de stockage seront pleines, selon la compagnie Tokyo Electric Power, qui gère le site. Donc plusieurs solutions ont été évoquées, comme enfouir l'eau très profondément sous terre, la diluer dans l'océan, ou encore même l'évaporer dans l'air. Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie propose de libérer progressivement dans l'océan le million de tonnes d'eau radioactive. L'Agence internationale de l'énergie atomique est aussi pour cette solution, sauf que c'est impossible pour le moment car l'eau est chargée en éléments radioactifs dangereux pour la chaîne alimentaire. Selon la compagnie TEPCO encore, l'eau a été traitée selon un puissant système de filtration peu dangereux pour l'environnement et les êtres vivants. Mais le problème, c'est que la compagnie n'a pas changé les filtres du système de décontamination assez souvent dans les premières années du traitement. Résultat, aujourd'hui, seulement un cinquième de l'eau stockée a été traitée efficacement. Le groupe fait étudier l'impact d'une telle décision sur l'image du pays à l'étranger. Les pêcheurs, les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement de la région et des pays voisins y sont fortement opposés, comme la Corée du Sud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour éviter tout incident diplomatique, aucune décision ne sera prise avant les JO d'été de Tokyo en 2020. Vu que c'est la nouvelle année, on est passé en 2020, on va parler des éléments qui changeront en 2020 pour nous en matière d'environnement. Donc le passage à la nouvelle année est souvent synonyme de changement de la loi. Et en matière d'environnement, les premières mesures anti-gaspillage vont être mises en œuvre. Donc à partir du 1er janvier, les assiettes et gobelets en plastique ainsi que les cotons-tiges en plastique seront interdits. Un délai d'écoulement des stocks de 6 mois a cependant été accordé, donc concrètement ils disparaîtront que dans 6 mois. A noter que c'est que le début, puisque à partir de 2021, ce sera aussi autour des pailles, des couverts et des bâtonnets mélangeurs en plastique d'être interdits. On passe ensuite au troisième titre d'actualité, l'arrivée inquiétante de la reconnaissance faciale en France. Alors concrètement, lors de la dernière semaine de décembre, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a annoncé des expérimentations dans le domaine de la reconnaissance faciale qui ont suscité beaucoup de réactions. Par définition, la reconnaissance faciale, c'est une technologie qui permet de reconnaître automatiquement un visage et donc une personne à partir d'une photo ou d'une vidéo. Ces technologies sont déjà utilisées dans certains pays, on pense par exemple à la Chine, où une impressionnante surveillance de masse a été mise en place. Et la semaine du 16 décembre 2019, c'est 80 organisations qui avaient rédigé un appel réclamant tout simplement l'interdiction de la reconnaissance faciale sécuritaire, y compris ce qui est déjà utilisé aujourd'hui, comme les portiques paraf à l'aéroport par exemple. Plus largement, selon beaucoup d'organisations, la reconnaissance faciale risque d'entraîner une surveillance permanente et surtout invisible, un peu à la Big Brother, comme dans le livre de George Orwell, 1984. Le vrai frein à l'utilisation de la reconnaissance faciale aujourd'hui, c'est un règlement voté à l'échelle européenne, le RGPD, qui interdit, je cite, « l'utilisation de la reconnaissance faciale sans le consentement des personnes qui y sont soumises ». Or, vous l'aurez compris, on ne voit pas vraiment comment ce consentement pourrait être concrètement donné dans le cas de caméras de surveillance, par exemple. À toutes ces inquiétudes, le gouvernement a tenté de se montrer rassurant en indiquant être conscient des éventuels problèmes de liberté publique, mais qu'il voulait un débat apaisé. En bref, il faudra encore attendre que la situation évolue avant de voir ce système mis en place. C'est la fin des actualités. Du coup, j'ai une petite question pour mes camarades autour de la table. Est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale en France ?
Moi, ce qui m'a un peu choqué dans ce qu'a dit le gouvernement juste avant, là, que tu as cité, c'est le débat apaisé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est censé être gentil, attendre que ça se passe Non, moi, ça me choque vraiment parce que c'est le genre de choses. On voit en Chine ce que ça a, le contrôle social que ça implique, et entre de mauvaises mains ou même pas forcément, ça me paraît évident qu'il y aura des dérives énormes et que c'est une perte de liberté sans précédent. Ce qui est dommage en plus dans un pays comme la France où on essaye de faire un minimum attention à ces choses fondamental.
Du coup, on va passer à la rubrique La science sous les radars. Avec Yolia.
Alors aujourd'hui, je vais parler d'un bracelet qui a été créé par des étudiants de l'UTC l'année dernière. Donc ça s'appelle le bracelet EVE, donc E-V-E, et qui leur a fait remporter le James Dyson Award l'année dernière. Donc en fait, c'est un système d'autodéfense et anti-agression. Pour le déclencher, il faut secouer 5 fois. Un gyroscope et un accéléromètre vont détecter les mouvements du poignet et après une lumière va s'allumer pour indiquer que le bracelet peut marcher. Ensuite, soit il faut prononcer un code enregistré qu'on a enregistré avant, donc ça peut être des mots ou des chiffres. Et il faut fermer le point pour déclencher une alarme, ou fermer le point pour déclencher une alarme. Donc en fait, si on veut le déclencher discrètement, on peut juste fermer le point au lieu de prononcer un code. Et ensuite, ça déclenche une alarme de 110 décibels pendant 10 secondes. En même temps, l'appareil va appeler automatiquement la police et une voix électronique va donner les coordonnées GPS exactes de la victime et va enregistrer pendant 5 minutes les échanges. La montre dispose aussi d'un tracker pour suivre la personne. Mais l'avantage de ce bracelet, c'est que ça ne dépend pas du tout du téléphone, donc on peut s'en servir n'importe quand, même si on n'a plus de batterie ou qu'on est perdu. Donc il y a aussi un mode d'activation qui ne déclenche pas d'alarme sonore, mais seulement l'appel d'urgence. Et si on n'utilise pas le bracelet dans les 5 minutes où il est déverrouillé, il s'éteint et il faudra recommencer la procédure. Donc cette idée, elle est venue du fait que les victimes d'agression ne savent souvent pas comment réagir. Les deux étudiants ont donc décidé de créer un bracelet léger, petit et discret. Et il est conçu de manière à être utilisé n'importe quand et discrètement. Donc on peut le mettre soit autour du poignet, soit autour de la main, de manière à pouvoir appuyer avec le pouce pour déclencher l'alarme. C'est surtout destiné aux femmes. Après, les hommes ils peuvent aussi s'en servir, mais c'était d'abord créé pour les femmes. Et c'est aussi totalement légal, contrairement à d'autres systèmes d'autodéfense qui peuvent être retournés contre la victime.
Oui. J'ai une petite question. Parce que du coup, donc, le bracelet contacte la police, mais est-ce que la police est au courant qu'ils sont contactés par le bracelet? Parce que quand on voit le traitement des fois des victimes de violence...
Oui, ça justement c'est une question que je m'étais posée aussi. Pas trop comment... qu'est-ce que la voix dit?
D'accord.
Mais c'est vrai qu'après, je sais pas si c'est forcément efficace, mais bon, ouais. Voilà. Disons que ça sert quand on peut pas appeler soi-même. Mais après, est-ce qu'ils vont vraiment réagir? Ça, c'est une autre histoire.
Musique. Si personne n'a d'autres réactions, je pense qu'on va passer à une petite pause musicale.
Ok, on va ensuite passer à l'interview du jour. Donc Lucie est allée faire une interview pour nous à Paris. Écoutez ça. Donc c'est à l'école 42. Et Lucie pourra vous en dire plus.
Je suis avec Sophie Vigère, directrice de l'école 42. Bonjour Sophie, pouvez-vous nous raconter votre expérience brièvement ?
J'ai un parcours plutôt atypique. J'ai fait des études de biologie et ensuite des études de musicologie. Et après, j'ai été dans une école privée pour apprendre à être concepteur, réalisateur multimédia à l'époque, où je suis devenue prof de programmation. Très rapidement, en fait, pendant ma formation, je fais une sorte de putsch, parce que je trouvais que les profs étaient nuls, qu'ils avaient du mal à expliquer les choses de manière claire et simple, qui faisaient en sorte de rendre les choses compliquées pour avoir l'air de détenir un savoir difficile d'accès. Et puis après, j'ai été dans pas mal d'entreprises. J'aimais beaucoup avoir à chaque fois des challenges à relever. Donc j'arrivais dans des entreprises où il y avait des difficultés. Et puis au bout d'un an ou deux ans, quand tout était réglé, j'avais plutôt tendance à repartir, redonner des cours de programmation. Donc j'ai été directrice d'un studio multimédia, j'étais directrice commerciale. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, donc j'ai fait des expériences assez variées. Et puis en 2013, j'ai eu la chance d'être nommée directrice de la Web Academy. Et là, j'ai découvert la pédagogie par projet et les jeunes sortis du système scolaire. Ça a été deux gros coups de cœur. Et puis, on m'a confié la création d'une nouvelle école, le Samsung Campus, l'année d'après. Puis encore une autre école, la Koenig Academy by Epitech, l'année suivante. Et enfin, en 2018, j'ai eu l'immense honneur et l'extrême chance d'être nommée directrice générale de 42.
Vous êtes la directrice d'une école majoritairement masculine. Qu'avez-vous mis en place pour les femmes et pour qu'elles se sentent mieux à l'école 42 ?
Alors, vu que l'émission doit durer 5 minutes, je ne pourrais pas vous donner toute la liste parce qu'en fait, on a un nombre d'actions qui est vraiment très très important. Je crois que ça fait plus de 40 actions qui sont, on va dire, principalement, beaucoup déjà de communication vers l'extérieur pour montrer aux femmes qu'elles étaient légitimes, qu'elles étaient crédibles dans le milieu de l'informatique, pour leur montrer aussi qu'elles étaient en sécurité. Donc, je ne parle pas de sécurité physique à l'école, mais plutôt de bien leur faire comprendre qu'il n'y avait aucune place pour le sexisme au sein de l'école. Leur montrer à voir ce qu'on pouvait faire comme métier aussi en suivant une formation à 42. Et puis essayer aussi de détricoter un petit peu tous les stéréotypes qui existent et qui font que malheureusement les femmes ne se tournent pas vers ces métiers-là, par manque de connaissances en fait principalement. Donc on a mis en place beaucoup d'actions de communication, beaucoup d'actions de modification ici à l'intérieur des locaux pour les rendre plus agréables, de prise en compte en fait tout simplement de la gendre féminine. Dans l'ensemble des décisions. On a mis en place un groupe interne de réflexion, voilà. Et puis surtout aussi un écosystème. On travaille beaucoup avec Pôle emploi pour aller chercher justement des demandeuses d'emploi qui ne connaissent pas nécessairement le code. Et puis aussi avec d'autres associations comme Wifi, 15 Tech, Social Builder, etc.
Avez-vous été victime ou témoin de propos sexistes dans votre vie active ? Et que pensez-vous que nous pouvons faire pour lutter contre cela ?
Alors, victime ou témoin, témoin certainement, j'ai déjà vu. Ce qu'il faut faire, si vous voulez, lorsque j'ai été témoin de propos sexistes, en général, j'avais la chance d'être à la manœuvre, c'est-à-dire de pouvoir faire maintenir par le cadre une certaine loi, ce qui est d'ailleurs ce qui a été fait à 42, c'est-à-dire de mettre en place des process et des sanctions pour faire en sorte que ça ne puisse pas être réitéré. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, quand vous êtes dans la vie courante face à quelqu'un qui a un comportement sexiste, en général, vous n'avez pas la possibilité de mettre en place une sanction. Ou alors, vous pouvez faire appel. Alors, ça dépend dans quel cadre vous vous trouvez, mais vous pouvez faire appel justement à l'organisation dans laquelle vous vous trouvez pour dénoncer un propos sexiste. Sinon, est-ce que moi j'en ai été victime ? J'ai vraiment pas fait attention du tout, voire malheureusement, dans un autre sens, ça m'a souvent plus motivée. C'est-à-dire que comme quand j'avais 23 ans, j'avais des cours de programmation, j'étais un peu une grande blonde, c'était déjà il y a 24 ans, c'était il y a un petit moment. Il n'y avait pas beaucoup de filles et c'est vrai que la plupart du temps, on me regardait comme quelqu'un qui n'avait pas nécessairement la crédibilité ou la légitimité pour être en place. Mais moi, ça m'a toujours motivée, ça m'a toujours fait un truc du genre « Oulala, comment je vais te montrer ça ? Tu vas voir comment je suis légitime !» Donc c'était plus un moteur. Mais ce qui n'est pas juste, souvent, je m'en suis aperçue assez récemment, en fait. Pour moi, ce n'était pas un problème, c'était un moteur, et ça me donnait encore plus envie de faire mes preuves et de montrer mes compétences. Mais c'est que assez récemment, en fait, justement, au moment où j'ai créé la Web Academy Ambition Féminine, je me suis dit, ce n'est pas juste, en fait. Ce n'est pas normal que dans un milieu, les femmes ne soient pas les bienvenues et qu'elles doivent faire leurs preuves et en faire 10 fois plus pour avoir le droit de faire partie de ce milieu, surtout quand on sait quel va être l'impact, justement, de ce milieu sur l'avenir. Donc, c'est plus là où j'ai une prise de conscience à me dire non, il faut aussi, on n'est pas obligé qu'à d'avoir que des tough girls ou ce genre de choses dans ce milieu-là, toute femme a sa place dans le milieu de la tech.
Avez-vous rencontré des difficultés en tant que femme travaillant dans le domaine de la technologie?
Alors comme je vous le disais, non, pas en tant que telle, puisque c'est un peu la même réponse que je vais vous faire, c'est-à-dire que moi, ça m'a particulièrement motivée. Donc, j'ai plutôt eu la chance de jouer, hein, on va dire, un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire que quand c'était des personnes qui remettaient en cause plutôt ma légitimité ou ma crédibilité, bah, ça me donnait encore plus envie de leur prouver quelles étaient mes compétences, au lieu peut-être d'appuyer sur un manque de confiance, ça faisait le contraire. Et puis, d'autres fois, j'en ai parfaitement joué en me disant, c'est très bien, je suis une femme, il n'y en a pas beaucoup. Pas au détriment des autres, bien sûr, mais juste en me disant c'est un atout et les gens sont contents que je sois là parce que je suis une femme et qu'il y en a peu. Donc moi, ça a été une forme d'avantage en permanence, en fait. J'ai jamais ressenti ça comme étant un frein, mais je peux complètement entendre. Et comme je vous disais, je me suis aperçue que bien sûr que ça pouvait être un frein et qu'il n'y a aucune raison que sous prétexte de votre sexe, on remette en cause votre légitimité. C'est complètement aberrant.
Aujourd'hui, les métiers qui ont attrait à la technologie sont majoritairement masculins et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont lieu pour montrer aux jeunes filles et aux femmes qu'elles ont les capacités de faire ce qu'elles veulent dans la vie, qu'il ne faut pas qu'elles se brident et qu'elles aient confiance en elles. Qu'auriez-vous à dire à toutes ces jeunes filles et avez-vous des conseils à leur donner ?
Alors c'est tellement vrai, malheureusement j'ai pas encore trouvé la formule magique qui permettait justement de lever les stéréotypes. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit très vite que dans notre culture, on a une division socio-sexuée des domaines qui est très très forte. C'est-à-dire que le domaine des sciences, des mathématiques, de l'abstraction, etc. serait l'apanage des hommes. Et tout ce qui est domaine du soin des autres, du social good et tout ça serait l'apanage des femmes. Et malheureusement, on est construit dans une culture qui nous imbibe complètement. En plus de ça, on doit faire des choix dans la vie à des moments où les stéréotypes sont encore plus forts et on a vite et fortement besoin de s'y conformer. Donc c'est très très difficile, mais je crois qu'il faut une articulation d'action qui soit menée vraiment à tous les âges, c'est-à-dire dans la petite enfance pour éviter tous les jouets dits sexistes et genrés, ensuite à l'école, par la représentation, et donc ça, c'est une action qui doit être menée tout le temps et qui est très difficile actuellement, puisque par exemple dans les manuels scolaires, on a une majorité de représentations masculines dès qu'il s'agit de scientifiques. Donc c'est très difficile pour une petite fille d'avoir confiance dans ses capacités, de se dire qu'elle est légitime et que c'est possible pour elle quand elle voit que des représentations qui ne correspondent pas à ce qu'elle est. De la même manière, beaucoup de femmes se privent de la possibilité d'aller vers la tech parce qu'elles en ont une représentation à la fois imagée d'un homme. Alors on peut tomber dans les caricatures, hein, avec du gros bide, de la bière et des pizzas, et donc elles n'ont pas envie de ressembler à ça, ce qui est tout à fait compréhensible. On a envie de se porter, de se projeter vers des personnages qui nous donnent envie, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc il faut absolument changer cette image-là, et puis surtout de à quoi correspondent ces métiers-là, qu'est-ce qu'on y fait. On a encore une image qui est qu'on va s'ennuyer à faire des signes kabbalistiques derrière un ordinateur toute seule, ce qui ne correspond pas du tout à ce que c'est le code, comme ce serait des mathématiques, et c'est pas pour autant que mathématiques et femmes font mauvais ménage, rien à voir, mais tout ça ce sont des stéréotypes et c'est difficile malheureusement de lever le voile dessus. Et en général, souvent j'entends des femmes me dire non mais c'est pas fait pour moi, mais elles savent même pas de quoi elles parlent, elles se rendent même pas compte qu'elles obéissent à des sortes de diktats en fait culturels, et qu'elles se privent d'opportunités qui sont d'abord des opportunités merveilleuse en termes de carrière, parce que ce sont des métiers, il faut quand même le dire, qui sont extrêmement bien payés, qui sont des métiers d'avenir, mais aussi des opportunités en termes d'autonomie et de réalisation de projets. Et c'est hyper créatif, le code. C'est hyper ludique, c'est vraiment amusant de coder. Et puis, on travaille avec plein de gens. Donc voilà. Donc, peut-être, je sais pas, des conseils qui seraient d'essayer de s'intéresser un peu plus et d'aller au-delà des apparences pour comprendre de quoi il s'agit et de prendre conscience du fait que c'est important pour... pas seulement pour les femmes, mais pour l'humanité entière, qu'il y ait plus de femmes dans ces métiers-là, pour pouvoir lutter contre tout ce qu'on appelle les biais genrés, qui malheureusement sont en train, qui sont amplifiés par l'informatique, par les algorithmes, et qui vont façonner le monde de manière encore plus injuste qu'il ne l'est actuellement.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Eh bien, merci beaucoup à Lucille et à la directrice de 42 pour cette interview. Je pense qu'on a quelques réactions par rapport à l'interview. Jinan.
Alors, donc en gros, l'école 42, donc, c'est une école qui est un peu particulière et qui attire très, très majoritairement des hommes. C'est une école qui attire par le modèle de projet, puisque ce n'est pas du tout des formations traditionnelles d'ingénieurs ou d'experts en code. Et 42, c'est aussi une école qui a eu quelques petites anecdotes, enfin qui ont fuité dans les médias. Il y a notamment une enquête de Mediapart. Et en fait, l'école, elle a fait l'objet de pas mal d'inquiétudes sur le traitement des filles par les étudiants. Alors, il me semble que c'est presque 95% de mecs là-bas. Et donc, il y avait notamment l'histoire du Slack qui était accessible par les étudiants, sur lequel des images pornographiques circulaient. En dégradant partiellement l'image féminine. Et il y a également des affaires, en tout cas des plaintes de témoins, donc des filles, des étudiantes là-bas, qui s'étaient plaints du traitement qu'elles subissaient en raison de leur tenue vestimentaire. Enfin, c'est des comportements qu'on retrouve grosso modo dans l'entièreté de la société. Et en l'occurrence, ils se répercutent et ils se reproduisent dans une école et par des élèves qui sont censés être là pour apprendre. Donc effectivement, il y a encore du boulot pour intégrer les femmes de manière générale et particulièrement dans la tech. Les codeurs ont une réputation pas toujours élégante de leur traitement de la gente féminine. Donc voilà. Donc il faudrait continuer les efforts à 42.
Bien, merci Jinan pour cette réaction et je pense qu'on va enchaîner sur une petite pause musicale.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi j'avais des couilles, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€, le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux pot. Alors que là, à 30, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie. Avec une jeune bimbo, c'est quand même plus glamour que de se taper des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout.
besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de colle enfilée, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit maman, pourquoi je ne suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper les putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. N'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée, je deviendrais ton chouan. Si j'étais un homme, si seulement. Seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. J'aimerais tellement pisser debout. Pisser debout. Si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. J'aimerais tellement pisser debout. Pisser debout.
Donc c'était une chanson non pas composée mais reprise par Lucille et un de ses amis qui jouait, Lucille qui était au chant, vous l'avez sûrement entendu. Est-ce que quelqu'un aurait une réaction par rapport à cette chanson qu'on vient d'entendre ?
Il faut bien. C'est alors une chanson qui est un peu ironique parce que elle met pas forcément en avant les points les plus importants. Qui discrimine filles et garçons, mais en tout cas femmes et hommes, enfin ça dépend comment on prend les choses, mais de manière générale c'est vrai que c'est-à-dire que les rapports sexistes ils sont pas uniquement contre la femme, c'est-à-dire que les hommes aussi pâtissent un peu du sexisme. C'est simplement que quand on a un modèle dominant-dominé et qu'on choisit pas quand on est, si on appartient aux dominants et aux dominés, forcément ça mène à des choses un peu ridicules. Et moi, j'ai bien aimé la chanson. Bravo. C'est tout.
Une autre réaction, peut-être ?
Quand tu parlais du rapport dominant-dominé, il y a justement une série sur YouTube qui a été mise en place qui s'appelle Martin Sexe Faible et qui, en fait, a exprimé tous les rapports dominant-dominé qu'on a en ce moment avec le sexisme entre les hommes et les femmes, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est... du coup, la gente masculine qui est dominée par la gente féminine. Et c'est assez impressionnant de renverser du coup, ces rapports pour se rendre compte en fait, qu'on a besoin d'égalité. Et quand on parle de féministe, je trouve que le nom est mal choisi parce que ça met en avant les femmes comme si elles voulaient dominer les hommes, sauf que c'est pas du tout le cas. Et en soi, ça devrait plutôt s'appeler égalitarisme ou quelque chose comme ça, plus ouais, une connotation égalitaire et non pas dominant-dominé. On devrait abolir ces rapports.
Le mot, c'est carrément un frein parce que quand tu questionnes les gens, la première chose c'est qu'ils sont pas d'accord avec le mot employé. En soi, je pense pas que ça devrait poser le problème que ça pose. Puisque si sur le fond des idées, on se comprend, ça devrait le faire. Mais le mot, il est incroyable à surpasser. Enfin, c'est vraiment un des problèmes principaux. Et y a aussi le fait que, en fait, quand on parle d'inégalité des sexes et des genres, on parle que de la femme dominée. Et c'est encore vachement tabou de parler du comportement qui est obligatoire pour être un homme. Enfin, et je pense qu'on ne pourra jamais avancer réellement. Du côté des hommes, si d'abord on les empêche de parler, parce qu'en fait ils sont aussi concernés, et si on empêche le fait de prendre conscience qu'en fait les hommes également sont des victimes. Et de toute manière, tant qu'on binarise un peu le dialogue et qu'on on regarde que du côté des femmes et qu'on refuse de se dire qu'il faut que les deux participent, on risque pas d'avancer, quoi.
Après, je suis d'accord qu'il faut, enfin, il faut pas exclure les hommes du débat, mais après, faut peut-être, enfin, je pense qu'ils sont pas autant victimes des femmes que du sexisme quand même. Je pense que les femmes sont beaucoup plus touchées. Et je veux dire, si on compare, enfin, si on compare l'égalité, enfin, je veux dire, si on regarde l'égalité homme-femme, c'est quand même les femmes qui sont plus pénalisées.
Bah, dominées, du coup.
Oui, voilà,
c'est parce qu'elles sont
ça.
À la position de dominer. Mais je veux
oui,
dire,
mais
tant
du
qu'on...
coup, enfin, on peut pas dire que les hommes soient vraiment des victimes. Enfin, c'est plutôt quand même l'inverse en général. Après, même s'il peut y avoir des exceptions, enfin. Je trouve que les mettre ça sur le même plan, c'est un peu
ouais, bah c'est
exagéré.
Là où je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, pour moi, le problème, c'est déjà qu'on n'arrive pas à franchir le cap de dire que l'homme peut être une victime. Ça veut pas dire que... Effectivement, la femme, si on compare... Enfin, si tu portes plus d'importance au salaire, à la situation, au rapport sexuel, au droit de s'habiller comme on veut, effectivement, les femmes, elles vont être soumises, puisque c'est la position de dominé et dominant. Mais le truc, c'est que les hommes naissent pas en choisissant d'être dominants. Et effectivement, tant qu'il n'y a pas de libération de la parole par rapport au sexisme qui est subi par les hommes, c'est même pas que je pense qu'on devrait plus en parler, c'est que je pense que si on n'en parle pas, il n'y aura pas non plus d'amélioration du côté des femmes. Et c'est ce que je veux. Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'on devrait se forcer à un peu plus parler des mecs.
Du coup, ouais, je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur les rapports de domination et... pour avoir vécu l'expérience du vestiaire, quand t'es le gars maigrichon, pas trop musclé face à tous les gars qui se mettent du déoax sous leurs bras, bien musclés parce qu'ils vont à la salle 3 fois par semaine, tu découvres aussi un peu ce que c'est d'autres formes de discrimination qui sont pas du coup liées au sexe, mais liées à une vision de la masculinité qui est tu dois être un mec, baiser plein de meufs, rôter à table et manger 3 assiettes de pâtes avec 2 steaks parce que sinon, alors que voilà, et en fait le simple fait de pas être comme ça, même d'être ce qu'on dit sensible, enfin des compétences qu'on dit de femme, ce qui est débile, c'est débile de dire ça, mais le fait d'être un homme qui a des on n'est pas juste cet archétype de la virilité, d'ailleurs ce que personne n'est, je suis sûr qu'il n'y a aucun mec qui l'est vraiment, mais on se sent tous obligés d'essayer de correspondre à ça et ça crée beaucoup de mal-être de pas l'être. Alors qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas de distinction homme-femme. Voilà. Donc je pense que la domination, c'est l'ennemi principal.
C'est surtout qu'après, ça va se répercuter dans l'éducation. Si on n'intègre pas que les hommes sont obligés, ils sont forcés d'avoir le comportement viril par excellence, tu reproduis ça chez les enfants. Et quand les enfants grandissent, ils vont se dire qu'en tant que bon mec, ils vont devoir être dominants à leur tour. Et finalement, s'il y a des dominants, il y a des dominés. Donc dans tous les cas, c'est un peu le cercle vicieux. Et du coup, si on remet ça dans le sujet qui est la tech, on se rend compte que, en tout cas, il n'y a pas de justification sur... biologiquement, il n'y a pas de justification d'exclure des femmes pour ce coup, pour les compétences qui sont demandées en programmation, en développement, en ingénierie, en innovation.
Moi, ce que je trouve vraiment aberrant, tu parlais d'éducation et du fait qu'on reproduise les comportements sexistes qui existent dans notre société, c'est notamment une phrase de grammaire que tous les enfants français apprennent à un moment donné, c'est « le masculin l'emporte sur le féminin ». Alors certains disent que c'est juste une phrase comme ça et que c'est une loi de grammaire, mais pour moi, ça en dit réellement beaucoup sur notre société qui est patriarcale et qui dit en gros « oui, les hommes dominent sur les femmes ». Et je trouve ça vraiment aberrant qu'on apprenne ça aux enfants, alors que leur cerveau est en formation, que tous leurs modèles sont en train d'être construits, et qu'ils vont se forger sur des images comme ça, notamment dans les catalogues de jouets, où les hommes, les petits garçons, les voient jouer à la chimie, des scientifiques, faire des maths, et les femmes, on les voit passer l'aspirateur avec des bébés et des... C'est pas normal, et des poupées et de la cuisine. Enfin, je trouve ça vraiment aberrant. Ça permet juste de reproduire une société qu'on ne veut plus. Et j'avais cet exemple, une fois je suis allée acheter des fleurs avec une amie. Et devant nous, chez le fleuriste, il y avait un petit garçon qui devait avoir 3-4 ans qui achetait des fleurs pour sa mamie, avec du coup sa mère. Et le petit garçon a eu la jugeote de questionner sa mère sur le fait que toutes les fleurs étaient roses et le paquet aussi était rose. Et il a demandé « Mais pourquoi c'est rose ?» Et la mère a répondu parce que c'est pour mamie et que mamie est une femme. Alors, pourquoi une couleur devrait avoir un genre et pourquoi on reproduit ça encore dans notre société? Je trouve ça vraiment pas normal, en fait.
Juste réagir au coup de la grammaire. C'est vrai que la phrase en soi, quand tu la prends à part le masculin et le penchant féminin, ça paraît un peu aberrant, mais en soi, c'est la vérité. C'est comme ça qu'est notre langue, en fait. Du coup...
Mais du coup, la langue, elle est choisie. Alors, moi, sur la question des jouets, c'est ultra important parce que ça impacte vachement sur le choix des études et donc le choix des métiers. Et donc, quand on parle de tech, forcément, que si tu es plus habitué à jouer à la dinette que à l'espion ou au savant fou, ça va carrément jouer sur tes choix futurs. Pour l'écriture, alors, moi, je comprends le fait que ça soit aberrant. Il y a plein d'aberrations dans la langue française. Mais si on veut regarder des langues qui sont non genrées à l'étranger, moi je connais l'exemple du japonais. Il me semble qu'il y en a plein d'autres. Il y a le turc, il y a des. Bon, on va prendre l'exemple du Japon, qui est, on va dire, un pays au niveau de développement à peu près équivalent à la France. On s'attendrait du coup à ce qu'une langue qui n'ait pas de genre, c'est-à-dire que tous les objets en japonais n'ont pas de genre. Alors tu différencies la femme de l'homme quand tu l'appelles. Tu appelles il et elle.
Plus simplement l'anglais. Cas, hein. Ouais. L'anglais n'est pas genré non plus.
C'est vrai, carrément. Et du coup, ouais, mais après, les Britanniques sont plus connus pour être pro-féministes. Mais si tu veux prendre un contre-exemple, du coup, tu prends le Japon. Enfin, la condition féminine au Japon, je ne dis pas qu'elles sont maltraitées, mais dans le travail, si on ne prend que le travail et dans la tech, mais ça en choquerait plus d'un. Hein. Donc, je ne suis pas sûre que ça peut être une partie du problème, notamment quand on dit... la ministre, enfin, qu'on n'a pas le droit de dire la ministre et qu'on dit le ministre, et du coup on attribue certains métiers à certains genres. Mais en l'occurrence, je suis pas convaincue que la langue ait vraiment un impact très fort sur.
Oui, je comprends. Peut-être que la langue n'a pas un impact très fort, mais il en est que, notamment pour faire ma lettre de motivation à l'UTC, j'ai vraiment hésité à mettre un E à ingénieur. Et je me suis dit, je le mets quand même. Mais je me suis sentie un peu gênée. Et je trouve que c'est pas normal qu'on ait cette gêne. En 2020, enfin, c'est... Voilà.
Après, je pense qu'il ne faut pas négliger que une technique d'écriture comme ça, une langue, a un impact inconsciemment, mais ça a un petit impact. Quand tu as un groupe de chercheurs où il y a 15 femmes et un homme et qu'on dit « ils ont trouvé que », inconsciemment, on formule l'idée que c'est un collectif d'hommes.
Oui, là, pour le coup, tu as carrément raison, parce que du coup, on s'imagine tout de suite un mec... quand tu dis médecin, juste le mot médecin, je suis sûre que la plupart des gens vont s'imaginer un homme. Quand tu vas dire la médecine en général, tu t'imagineras des hommes dans des postes un peu haut placés et les femmes, elles seront infirmières. Enfin, c'est vraiment le stéréotype. Et du coup, quand on parle de tech, on imagine le développeur, le programmeur de base, et c'est forcément un mec. Et par expérience, du coup, moi, j'ai fait un an dans une boîte informatique l'année dernière pour mon alternance en deuxième année de DUT. J'ai pas travaillé avec une seule femme pendant un an. Alors, c'est un cas particulier. En général, il y a quelques femmes en tech. Hein, mais ouais, moi, j'ai pas eu cette chance de parler à une seule femme sur plusieurs centaines de travailleurs. Et pourtant, j'ai développé avec un certain paquet de personnes et pas de femmes. Et j'étais même la première fille à être embauchée dans l'équipe. Et c'est vrai qu'au niveau des comportements, t'as peur... en tout cas, moi, ma réaction, ça a été de me masculinariser au maximum. De ressembler le moins possible à une femme, on va dire. C'est-à-dire, tu t'attaches les cheveux. Enfin, c'est plein de réflexes, mais des problèmes qu'un mec ne rencontrera pas avant d'aller travailler. Et quand tu es une femme et que tu n'as pas envie d'avoir un traitement différent, et bah, tu t'obliges à faire des choses qui ne devraient pas être un problème en soi. Est-ce que vous avez déjà hésité, d'une manière ou d'une autre, à vous engager dans un secteur ou dans une activité parce que vous étiez un gars ou une fille ?
Hésiter, non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de TD en génie biologique. Je suis le seul mec au milieu d'une classe de 30 filles. Enfin, l'inverse arrive aussi peut-être dans d'autres professions. Mais je suis d'accord que ce n'est pas du tout un argument pour dire qu'il ne faut pas favoriser l'accès à ces professions-là.
C'est vrai qu'en bio, par exemple, les mecs sont beaucoup moins représentés, mais... On va pas se poser la question de s'attacher les cheveux pour le coup, du coup. C'est vrai que la discrimination n'est pas la même.
Ouais. Je tu ne dois pas être infantilisé, on va
oui,
dire.
Oui, non, c'est... Non, c'est ça.
C'est toujours la peur quand tu es une femme. Après, je ne suis pas... Est-ce qu'autour de la table, par exemple, il y a des personnes qui défendent vraiment la parité Par exemple, il y a la parité qui était imposée dans certaines administrations.
Les quotas, tu veux dire?
Ouais, les quotas pour vraiment... Et il y en a d'autres qui défendraient les quotas partiellement, complètement, temporairement.
C'est vraiment prendre quelqu'un parce qu'il faut prendre des femmes et parce que... Enfin, c'est...
Moi, je suis d'accord.
Ouais, je pense qu'on doit être représenté dans ces secteurs, déjà par passion, par choix et par compétence. Et ça doit être la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que, elle en parlait, Sophie Vigère, tout à l'heure dans l'interview, elle disait, oui, on a besoin de représentantes féminines et on n'a pas besoin que de tough girls. On doit avoir des gens qui n'ont pas forcément complètement toutes les compétences et on n'a pas besoin de se dire, je dois être parfaite parce que je n'ai pas ma place ici. On ne doit pas se dire, il faut que je prouve que j'ai ma place ici. On doit être accepté à cette place parce que les autres pensent qu'on a ses compétences et qu'on les a. Mais on ne doit pas pour autant surpasser les hommes parce que sinon on n'aurait pas notre place ici. Donc je pense qu'il faut juste qu'on soit recruté sur les mêmes critères, peu importe si on est femme ou homme, et qu'au final on s'en fiche des quotas, tant qu'on a les compétences pour être à notre place. Je sais pas ce que vous en pensez.
De toute façon, à mon avis, il n'y a rien de plus égalitaire que les lois universelles. Donc, à partir du moment où tu mets un quota, c'est limite en... Si je me mets à la place d'une femme, je trouverais ça... dégradant, voilà, c'est ça. Dégradant que... Puisqu'après, on pourrait me dire... t'as eu ta place dans cette université où t'as eu ce travail parce qu'il y a les quotas, parce qu'il faut qu'il y ait une parité, certaines parités, tout ça. Donc je ne suis pas forcément un supporter de ce système de quotas.
En fait, moi, je pense qu'à court terme, ça peut être une solution dans le sens où tu forces les gens à voir plus de femmes dans le secteur. Mais je pense qu'à long terme, ça devrait disparaître. En fait, il y a des bonnes choses. Enfin, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des choses dont on profite qui sont dues au fait qu'on a imposé des femmes de force, on va dire, dans des secteurs, ne serait-ce que pour les voir et pour voir qu'elles sont capables de faire au moins aussi bien. Mais à long terme, si ça revient presque à essentialiser les personnes et même pas les prendre par mérite. Et vraiment, je pense que ça peut délégitimer carrément les... Enfin, on parle souvent des ministres. Les ministres femmes, elles sont assez rares. Et celles qui sont là, que ce soit des ministres, des députés ou des femmes politiques, de manière générale, elles sont plus que cooptées par leurs parents. Les plus grandes femmes politiques qu'on connaît, elles ont tous des pères ou des oncles, enfin de la famille qui a fait de la politique avant. Et on voit que l'ascenseur, le plafond de verre, il est quand même relativement difficile à briser. Et les femmes qui sont là à leur position, généralement, elles sont considérées comme non méritantes par beaucoup de personnes. Et c'est un problème à la fois pour les féministes, en tout cas, ou les égalitaristes, comme on les appelle, et autant pour la population qui n'est pas encore sensibilisée à ça. Parce que, enfin, ça freine. Moi, je trouve que ça freine vachement.
Moi, je pense qu'on va passer une petite pause musicale.
company tonight. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need.
On reprend après la petite pause musicale et Pierre a une intervention.
Alors du coup, moi j'ai quelques chiffres pour recentrer sur le débat qui est quand même les femmes et la technologie, enfin la tech. Donc il y a à peu près 50% de femmes en terminale S, enfin de filles du coup, donc 46,7%. Par contre, en école d'ingénieur, on n'en a que 29%. Et donc en un, voilà, bah, y a une réaction déjà, je vois. Non,
à peu près. Ouais, en école d'ingé, et encore, il faut regarder vraiment la spécialité de l'école d'ingé. À l'UTC, on est plutôt général, et il y a beaucoup, beaucoup plus de filles que moi, j'étais habituée l'année dernière. J'ai fait un diplôme plutôt de technicien, donc beaucoup plus technique. Et alors déjà, mon année, on était réputé pour y avoir beaucoup de filles. On était à peu près 2 filles pour un groupe de 15. Et les profs étaient tous ultra choqués qu'il y ait autant de filles. Et là, cette année, j'ai jamais bossé avec autant de meufs. Mais ça dépend vraiment de femmes, ça dépend vraiment de la spécialisation. Et on voit que plus c'est technique, et on peut prendre l'exemple de 42, où c'est vraiment une école, donc pas d'ingénieur et pas général, et qui est vraiment très technique. Il y a quoi d'autre ? Il y a l'EPITA et EPITECH, qui sont d'autres écoles privées, pas forcément d'ingénieurs, mais d'informatique à Paris. Et elles sont vraiment très axées technique et code, et il est les pourcentages de filles, ça doit être 5%, il me semble. Donc, il y a des filles qui vont être attirées naturellement par ça. Moi, c'est mon cas. Et puis, d'autres pour qui ça va être un frein.
Et en plus de ça, dans ces écoles dont tu parlais, EPITA, EPITECH, c'est que c'est des écoles qui coûtent plusieurs milliers d'euros par an et que du coup, tu as une discrimination vis-à-vis du sexe et surtout une grosse, grosse, grosse discrimination sociale. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas les moyens de payer le diplôme, il n'y a aucun moyen d'accéder à cette profession-là.
Alors que 42, du coup, c'est gratuit, complètement.
Ou alors, il y a toujours la possibilité de l'alternance, du coup, pour les études payantes. Mais c'est vrai que... Alors, 42, il y a un concours un peu particulier. Enfin, c'est des tests moitié logiques, cognitifs et tout, pour y rentrer. Et c'est pas franchement y rentrer qui est compliqué, c'est plutôt y rester. Il y a le fameux examen de la piscine. Il me semble que c'est un mois ou plusieurs semaines à l'entrée. C'est le truc qui tente absolument, enfin tous les geeks, enfin en tout cas moi, c'était vraiment presque t'as envie de rentrer dans l'école pour faire la piscine. Donc une fois passé à la piscine, c'est vraiment, de ce que j'ai compris, alors il y a eu les témoignages des élèves dont on a parlé un peu plus tôt, et puis des témoignages d'amis, enfin de proches. C'est vrai qu'être une fille dans un milieu totalement masculin, quand les hommes n'ont pas... Alors, soit ils n'ont pas l'envie d'être mélangés avec des filles, soit ils ne se rendent même pas compte que leur comportement pose un problème quand une fille porte une jupe et que tu as plusieurs mecs qui la suivent pour regarder en dessous. C'est vraiment des témoignages qui ont été donnés par des filles à l'intérieur même de l'école. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'ordre à l'intérieur de l'école, mais j'ai envie de dire, c'est pas à cet âge-là qu'on apprend ce genre de choses. Enfin, il faudrait l'enseigner un peu avant. Est-ce que c'est propre aux hommes de la tech de faire ça? Moi, je suis pas certaine, mais je pense que le fait d'être vraiment regroupé en meute d'hommes et d'avoir aussi peu de femmes, forcément, ça favorise les comportements. Mais après, je suis pas certaine que la tech ait vraiment quelque chose à envier aux autres filières.
Peut-être qu'une des raisons qui pourrait expliquer ce que tu vois, à savoir un comportement très bizarre des hommes vis-à-vis de la femme qu'ils voient dans leur journée, il y a eu des études qui ont été faites au Japon sur donc un pays où il y a quand même en proportion moins de femmes que d'hommes, et les hommes ont un gros gros problème de sexualité, c'est beaucoup lié au porno par exemple, enfin aux films pornographiques, où du coup on développe une sexualité où la masturbation prend le pas sur le rapport sexuel et la rencontre avec une femme, et du coup il y a des logiques de sexe en réalité virtuelle, où il y a même un salon du pornographique Et ouais, les poupées gonflables, non, mais c'est des réalités desquelles il faut parler. Et du coup, bah, les hommes trouvent plus facile d'avoir un rapport sexuel fictif que d'affronter la relation avec une femme. Et du coup, bah, ça crée des situations un peu, entre guillemets, beauf. Dès qu'on voit une femme, on est là à la considérer un peu comme un objet, parce que finalement, on a, culturellement, on connaît que la pornographie.
Pour parler du Japon, je crois que récemment, enfin il y a un an ou deux, ils ont légalisé le fait de se marier avec le personnage de sa déesse, donc un personnage avec lequel tu as une relation virtuelle dans ta console portable et tu peux te marier avec. Et ouais, ils se retrouvent même dans des cafés, plusieurs mecs, quoi, pour faire des dates à plusieurs. Enfin bref.
C'est très technologique pour le coup. En plus, donc on parle du Japon, c'est vraiment un fantasme. Alors le Japon, la Corée et éventuellement la Chine, un fantasme pour tout ce qui est nouvelles technologies, développement. Enfin, ils ont des très grandes sociétés, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'électronique. Enfin, c'est vraiment des pays qui attirent et qui sont connus de toute façon pour produire pas mal d'innovations de ce côté-là. Et effectivement, la place. Alors, le Japon, c'est encore particulier puisque la femme, elle est encore beaucoup au foyer, il me semble, beaucoup plus que chez nous. Et effectivement, les comportements. Alors, j'ai lu en Chine, par exemple, une entreprise qui payait des masseuses pour les développeurs. Donc, c'est vraiment propre aux développeurs. Ils ont des journées de travail tellement intenses à coder que l'entreprise payait des femmes. Enfin, il y a des offres d'emploi de femmes masseuses pour développeurs. Et alors les femmes, du coup, le peu de femmes qui travaillent dans l'entreprise profitent des masseuses, mais du coup, ça reste des masseuses et il n'y a pas de masseurs. Voilà. Donc c'est peut-être extrême. Il me semble que ça ne serait pas légal en France, quoique. En tout cas, les offres genrées sont beaucoup plus populaires. C'est assez rare d'en voir en France des offres d'emploi genrées directement. Enfin, je veux dire, quelqu'un a déjà vu une offre. En général, on voit HF, mais il ne me semble pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu d'offre qui demandait proprement une femme ou un homme, mais il y a des pays, donc la Chine en l'occurrence, c'est assez courant. Et c'est pour ça, enfin, il faut aussi montrer que c'est pas une barrière directe qui est faite aux femmes dans la tech, et c'est peut-être même plus compliqué à comprendre du coup, puisque c'est plein de barrières mentales et pas des interdictions pures et dures d'entrer dans certains métiers. Mais du coup, parce que autour de la table, si on fait un tour de table, c'est quoi vos filières, enfin en tout cas ce que vous voulez faire plus tard?
Moi j'aimerais bien être en GB, biologique. Donc génie biologique, du coup.
Moi en génie des procédés.
IM pour moi,
donc mécanique. Pour moi génie biologique aussi.
Et du coup.
Du coup, toi c'est en génie informatique?
Oui.
Et moi, en génie biologique, du coup, on a un échantillon pas du tout représentatif des clichés habituels.
On doit être les deux mecs de l'amphi.
Mais vous vous êtes déjà senti jugé par d'autres mecs? Alors peut-être qu'à notre âge, c'est peut-être un peu moins fort, il me semble.
Mais je pense que ça allait plus au collège au lycée.
Par tes parents, des fois, il y a les parents qui font carrément barrière. C'est même le premier facteur hein, pour choisir une filière, c'est souvent les parents. Moi, j'ai eu la chance de ne pas grandir. Enfin, bien sûr qu'il y avait une différenciation entre filles et garçons. Il y avait du sexisme dans leur éducation, mais pas du côté des études. Et du coup, j'ai jamais eu de problème. Enfin, moi, en tout cas, en me projetant, puisque j'ai su que je voulais devenir développeur vraiment en terminale, je ne me suis même pas dit que ça pourrait être une barrière d'être une fille. J'avais un peu peur de me retrouver vraiment seule, parce que c'était la première fois. Que je quittais le lycée et du coup forcément les taux de filles-garçons ils s'inversaient, mais je me suis jamais dit que je choisirais un autre secteur parce que mon genre, enfin j'étais une femme, mais après ça dépend aussi de l'éducation je pense.
Pour moi ça a jamais été un frein non plus quand je me projetais, mais par contre ce qui m'a assez choquée quand j'étais en terminale et que du coup j'ai passé des entretiens pour des écoles d'ingénieurs, c'était quand même qu'il y avait beaucoup moins de filles que de garçons, et enfin par rapport au lycée où dans ma classe il y avait je crois autant de filles que de garçons voire plus, là ça faisait quand même assez bizarre de voir qu'il y avait dans certaines écoles il y avait vraiment très 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 peu de filles, et limite je les cherchais parce que non mais tu te sens quand même un peu seule quand tu vois que des mecs autour de toi, tu te dis bon d'accord. Et aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'ai trouvé un peu dégradant, c'est que parfois, ils disaient, en gros, qu'il y avait des quotas de filles et que du coup, on avait plus de chances d'être pris. Mais du coup, ça, c'était un peu comme si c'était pas par rapport à nos compétences, mais que c'était vraiment juste parce qu'on était une fille, on nous prenait, mais qu'on le méritait pas vraiment.
Est-ce qu'il y a un argument un peu de rageux, comme on pourrait dire? Non, ça, je suis d'accord que c'est vraiment stupide d'en arriver là et même dommage.
Mais moi, j'avais sérieusement peur l'année dernière d'avoir été prise pour ça. On était plusieurs candidats, j'étais la seule fille. Et donc, j'ai été prise, j'ai pas dit non, forcément. Mais au cours de l'année, une fois que je me suis rapprochée un peu de mes supérieurs et des personnes qui m'avaient embauchée, je leur ai demandé sérieusement s'ils avaient une politique au sein de l'entreprise visant à favoriser les femmes. On entend très régulièrement, en tout cas dans le milieu du développement et de l'informatique, il faut plus de femmes parce que les femmes, elles rapportent quelque chose que les hommes n'apportent pas. Et ça, ça me dérange. À la fois, ça peut être vrai parce qu'on a des différences biologiques. Je suppose qu'il y a vraiment des différences, cérébrales même. Quand on est une femme et un homme, il y a forcément des distinctions génétiques. Mais être prise, parce qu'on est une femme... et qu'on apporterait un vent de fraîcheur dans le domaine. Moi, ça me dérange comme argument. Je comprends qu'en tant qu'employeur, ils aient peut-être des intérêts à mixifier un peu le tout, mais je suis franchement défavorable aux arguments économiques en faveur de l'insertion des femmes, enfin de s'en servir comme un argument pour ouvrir les portes aux femmes. Pour moi, c'est une mauvaise manière de faire.
Moi, en vrai, je trouve ça plutôt valorisant qu'on dise on a besoin de plus de femmes dans un secteur plutôt que de dire non, on prend pas de femmes. Ou...
Bah, je suis d'accord, c'est valorisant de dire ça, mais pas pour les raisons qu'ils nous donnent. Enfin, en tout cas, moi, quand on me répond, il faut plus de femmes parce qu'elles elles apportent de la douceur dans une équipe. Ça, c'est et on me l'a vraiment sorti, je l'ai pas pris mal parce que c'est des personnes que je savais. Elles ne voulaient pas de mal. Enfin, on avait des rapports très amicaux, mais c'est pour moi une mauvaise raison.
Bah, y a rien d'être négatif à être doux. Enfin, c'est comme être, je sais pas, quand on dit on t'es gentil, c'est que c'est affectif. Enfin,
oui, mais ça reste positif. Un cliché. En fait, ça reste
fait
un cliché.
Une femme, du coup.
En fait, le problème c'est qu'il y a des traits de caractère comme l'empathie, effectivement, la douceur ou ce genre de choses qui sont qu'on associe aux femmes alors qu'on devrait juste les considérer comme des traits de caractère globaux de l'être humain et pas les exciter comme tel.
Après, il y a aussi les biais genrés. Donc, ça peut être une explication aussi du fait qu'on veuille mixifier une entreprise. Mais pour moi, en effet, le vent de fraîcheur et la douceur, c'est vraiment pas des arguments qui soient...
Ça vérifiait, mais... Enfin, d'expérience, moi, je l'ai pas vérifié. Hein. J'ai pas trouvé que les femmes étaient particulièrement plus...
Bon, je pense qu'on va devoir clôturer ce débat après une heure de débat très prolifique. Et c'était notre dernière émission et merci de nous avoir suivis. Et on se quitte sur une musique.
J'avais ton âge et encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage. Alors apprends à faire avec, rien n'est acquis vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui créait les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvais à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment. Regarde seulement ce qui te donne et pas ce qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie, c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure. Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y'a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité, c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité, c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y'a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y'a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots sont comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Alors. Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal qu'on se fait par amour. Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses.